Hey, je pense qu'on l'a entendu, hein, c'est Unison de Céline Dion qui a 30 ans aujourd'hui.
Oui, c'est le 10e album de Céline, mais c'était aussi son premier album anglophone, donc qui fête ses 30 ans, mais qui a été lancé le 2 avril 1990. C'est un album important et il faut raconter son histoire par le début parce que cet album-là est directement lié avec un autre album, un album francophone. À l'époque, Céline, ça n'allait pas très, très bien. Elle avait une image un peu ma tante. Tu sais, oui. Elle avait 18 ans, puis elle chantait des chansons, là, des vieilles affaires pour les vieux, tu sais. Et en même temps, ben, il y a Renan Gélil qui veut absolument lui donner une carrière internationale et qui se demande comment, lui, il va faire pour lui donner son premier album en anglais. Parce qu'à l'époque, pour un francophone, faire un album en anglais, là, c'était pas mal plus compliqué qu'aujourd'hui. Il y avait pas... l'aspect de mondialisation, il n'y avait pas d'ouverture nécessairement pour les francophones.
Eh oui, alors, rappelle-toi, Catherine, I Want to Pong de RBO.
Oui, exactement.
Parce qu'elle avait choisi de chanter en anglais.
C'est vrai. Et ça en est suivi une série de discussions avec les gens de la maison de disques CBS. C'était une première approche. Il y avait Vito Luprano, il y avait Mario Lefebvre, il y avait Bill Rotary qui était là, qui était directeur général. Et on va écouter d'ailleurs Bill Rotary.
Alors, il a décidé de venir chez CBS, puis le premier disque a été fait, mais lui, il avait toujours dans sa tête l'idée de faire un disque en anglais. Puis, il voulait qu'on fasse une entente dans le contrat que si elle vendait 100 000 copies qui étaient platine à l'époque, qu'on était pour faire un disque en anglais. Alors, pour lui faire plaisir, on avait mis un petit montant d'argent dans le contrat disant que si on était pour atteindre 100 000, qu'on faisait un disque en anglais. Alors, mais là, Incognito s'est vendu à 200 000. Alors, on a gardé notre promesse de continuer en faisant un disque en anglais.
Sans dire un mot,
et CBS, ben, c'est devenu Sony. C'était la même compagnie de disques que Michael Jackson. Et Céline, elle, tripait sur Michael Jackson à l'époque. Et en même temps, on a commencé tout un changement d'image. On se souvient là, de quand elle est arrivée avec Incognito, là, elle est arrivée avec une mini-jupe. Et on a engagé un gars qui s'appelle Demo Safari, qui était un top photographe qui a fait en fait la couverture de l'album et les photos de Céline pour l'album Unison. C'est un Canadien qui, à l'époque... photographier les Rolling Stones, Pink Floyd, le groupe Rush. Et ben c'est ça, on lui a confié le mandat de s'occuper de l'image de Céline, qui est arrivée avec, tu sais, le petit T-shirt blanc et les jeans. Et Bill Rotary a eu une idée. Quand on est venu pour faire le lancement de l'album, lui a dit, écoute, c'est toute l'industrie qui va venir à Céline et non l'inverse. On va pas la promener partout. Donc, les médias, les gros bons du Canada et des États-Unis sont débarqués au Québec. On écoute Bill Rotary.
Quand on a lancé le premier titre de Unison, c'était la fête de Céline, puis elle avait 21 ans à ce moment-là. Mais alors, c'était vraiment une réussite, parce que le vendredi soir, au Chanteclair, elle a fait un showcase. Et les gens, là, m'ont dit une affaire sur, à travers le Canada, qui n'ont jamais rencontré Céline ou même l'attendu chanter. Ils ont tombé en bas de leur chaise. Puis le reste de la fin de semaine, de samedi, dimanche, les autres, tout le monde ont resté dans le Nord, puis ils sont amusés à nos frais de CBS, puis on n'est même pas achalés à rien, parce que pour nous autres, c'est important qu'ils rencontrent Céline. D'après moi, c'était une vraie réussite. Puis la façon qu'on l'avait faite pour amener le pays à Céline, au lieu d'amener Céline partout au pays.
Catherine, c'est une autre époque où les compagnies de disques avaient de l'argent pour héberger, faire venir des journalistes de partout en Amérique, les laisser dans un hôtel de villégiature.
Tout le week-end. J'aurais aimé ça faire partie de cette époque-là. On en reparlera avec Thérèse Parisien un moment donné. Mais il faut se souvenir aussi d'une chose qui est très importante, c'est qu'à l'époque, Céline ne parlait pas parfaitement anglais. On l'écoute encore.
Elle chantait en anglais, mais phonétiquement, tu sais, parce que son idole, c'était Barbra Streisand, puis... Mais lui, il l'a amené à Berlitz, puis elle a appris l'anglais. C'est toujours le début d'une carrière, d'après moi, qui est très important. Puis moi, j'avais une équipe formidable, tu sais, alors, pour la faire lancer, parce que, tu sais, faut la montrer aux États, puis partout au monde, qu'on est capable de vendre le produit ici au Canada, puis à Québec, puis tous les autres pays sont tombés un après l'autre, puis la carrière était partie.
Et quand il parlait d'équipe, c'était vraiment important parce que tout le monde a décidé de parler à Céline uniquement en anglais. C'était comme un jeu qu'il faisait, c'était pour la faire répéter, puis finalement, elle a appris l'anglais assez rapidement. Et Vito Luprano, lui, c'était lui qui s'occupait des albums, des chansons. C'est lui qui trouvait de la musique. C'était aussi le conduit entre René Angélil et la maison de disques. Donc, son rôle a été vraiment crucial, non seulement pour l'album Unison, mais pour la carrière de Céline. Et René voulait absolument travailler avec David Foster pour la production, qui était à l'époque hyper connu, entre autres, pour avoir travaillé avec Barbara Streisand. Céline capotait sur Streisand. Donc, on a fait venir David Foster à Sainte-Agathe. Il est arrivé à l'aéroport, il l'a embarqué dans une limousine. Puis pourquoi Sainte-Agathe? Parce que c'était la seule place où Céline chantait au moment où lui était disponible. Il est arrivé, c'était un show un peu boboche, en dessous d'une tente. Il pleuvait à pluie battante. C'était l'enfer. Et finalement, David Foster est par terre et je me souviens d'avoir vu dans le documentaire Off the Record, il dit « J'ai réalisé en quelques secondes que des millions et des millions de personnes étaient pour aimer cette femme. » Alors, il a dit oui tout de suite. Ça a été le début d'une très, très longue collaboration entre David Foster et Céline Dion. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au début, il n'y avait pas de hit sur le disque. Il y avait une chanson du nom de « Have a Heart », on écoute. « Baby, just have a Et ça, c'est une chanson qui
est chantée. Je me souviens de ça, Kat.
Oui, ben oui, mais tu vas voir pourquoi tu t'en souviens. Parce que cette chanson-là, elle a été chantée au Juno en 88, bien avant Unison. Et là, les Juno voulaient que Céline chante une chanson en français. Puis finalement, on a dit non, on va vous donner une exclusivité. Il y a une chanson en français qui traîne sur l'album Incognito. Eh bien, on a pensé, nous, que c'était un meilleur hit en anglais. Donc, on va vous donner votre primeur. Et Céline va chanter en anglais pour la première fois au Juno. Et je te fais écouter la version française qui a été écrite par Aldo Nova. Dans les rues de mon cœur, dans le soleil et dans l'ombre, partout je dois. Et là, on avait besoin de chansons. Alors, ils sont allés chercher un gars qui s'appelle Chris Neil, qui vient de l'Angleterre. Et lui est arrivé avec quelques chansons, mais entre autres, la pièce cruciale de cet album-là, « Where Does My Heart Beat Now? »
Bien connue, celle-là.
Ouais, bien connue. Elle a été écrite par Robert White Johnson et Taylor Rhodes, mais produite par Chris Neil. Et c'est la seule chanson qui a fait son entrée dans le palmarès américain en finissant quatrième au Billboard. Une autre chanson que Chris Neil a amenée sur l'album, ça s'appelle « Any Other Way ». Et même si Foster, David Foster, parle qu'il a fait les débuts de Céline Dion sur un album, il n'a pas été si hot que ça. On va écouter d'ailleurs Vito Luprano.
Ben, c'est lui qui nous a pas donné les hits, tu sais. Et je vais te dire, tu sais, si on n'avait pas les chansons de Chris Neil, on aurait été perdu, tu sais. David, il était au milieu d'un divorce. Pour ça, sa tête était pas toute là. Mais en même temps, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de talent, que après l'album, tu sais, moi, je voulais utiliser David encore, mais René, il n'était pas sûr, mais j'ai expliqué, j'ai dit, René, il était au milieu d'un divorce, lui, là, crois-moi, il va nous donner des guides. Puis là, il nous a donné All By Myself, Power of Love, il nous a donné beaucoup de hits, tu sais.
Et Céline est devenue populaire par la suite. Elle a fait Johnny Carson. Il y avait eu une immense convention au Château Frontenac à Québec où elle avait justement chanté Where Does My Heart Beat Now? Et il y avait une autre vedette qui était avec elle dans cette convention-là. On écoute encore Vito Luprano.
Et là, quand c'est fini, il y avait aussi George Michael qui était à la convention et tout ça. Puis quand elle avait fini, puis elle partait, en même temps, George Michael partait à Québec, tu sais. Quand ils ont sorti ensemble, tu sais,
j'étais dehors. Et tout à coup, il y a du monde qui crie, puis qui... Et là, George Michael, il pensait que c'était pour lui, mais lui, il ne comprenait pas, tu sais. Puis là, tout le monde disait, Céline, Céline, Céline. So, George Michael, il a trouvé ça un peu embarrassant.
George Michael a rencontré sa modestie, comme disait Jean Lapierre.
Oui, mais Vito Luprano a été tellement important. T'sais, il a fait tous les albums de Céline jusqu'à Taking Chances en 2007. Puis voici comment s'est conclu ce matin notre conversation. Tu vois, c'est assez important.
T'sais, Catherine, honnêtement, depuis mon dernier album que j'ai fait avec Céline, qui s'appelait Taking Chances, tous les albums que j'ai travaillé dessus, on a eu des hits. Ces deux derniers albums en anglais, elle n'a pas eu de hit. Parce que je pense que le monde qu'elle travaille avec, c'est pas ça. Mon rêve, ce serait de faire un dernier album avec Céline, en espérant que je puisse donner un couple de hits à la radio et ma retraite après ça.
Fait qu'on lui souhaite. Mais je finis, dernière anecdote, Unison, c'est une chanson qui avait été une reprise. Oui. Et deux jours avant que Céline sorte l'album Unison, il y avait une version de Laura Branigan qui est sortie, tu peux-tu croire, le 30 mars 1990, qui était écrite... Ben oui, Andy Goldblack. Quel hasard. Finalement, ça n'a jamais nu à l'album.
Merci, Kat. On se reparle demain.
À demain.
Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'être à l'écoute. Un grand plaisir de vous accompagner en ces temps très difficiles. Je vous laisse avec Mario Langlois.